Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Un message de paix est lancé au gouvernement et au peuple tchadien à l'issue de la seconde session de la conférence des chefs d'État de la CIAC qui s'est clôturée hier ici à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice, a été désigné facilitateur du processus de transition au Tchad. Et puis une fillette de 17 ans, emportée par le ruissellement des eaux de pluie et beaucoup d'habitants des sites érosifs sont sans abri. C'est le bilan dressé de la pluie qui s'est abattue à Kinshasa lundi dernier. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le porte-parole de l'opération militaire Sokola 1 Grand Nord. Anthony Mualushai nous parlera de l'attaque des ZADF jeudi dernier à Maboya où il s'observait déjà une accalmie. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a lancé hier mardi à Kinshasa un message de paix au gouvernement et au peuple tchadien. Ce message est contenu dans la déclaration finale de ce sommet consacré exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, président d'exercice de la CIAC, a aussi été désigné facilitateur du processus de transition au Tchad. Il a évoqué une lourde responsabilité et s'engage à tout faire pour amener la paix au Tchad et dans la région Afrique centrale. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus.
Et puis une délégation de la MONUSCO conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a rencontré le nouveau chef d'état-major général de FRDC, le lieutenant-général Christian Tshiwewe. Il était question pour le chef adjoint de la MONUSCO, Kassim Diagne, de réaffirmer la confiance et la coopération existante entre la FRDC et la MONUSCO. Kassim Diagne au micro de Martin Sebujangwe.
Le premier objectif de cette rencontre, de cette audience que m'a accordé le général Tshiwewe, c'était tout d'abord, au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même, j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir.
Pendant ces temps sur le terrain Nord Kivu, un calme précaire a régné tout l'après-midi d'hier mardi sur différentes lignes de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Dans les territoires de Rutshuru, certaines sources administratives et civiles dans la région précisent que vers la fin de la matinée, quelques tirs ont été entendus dans les environs de Bunagana, dans le groupement de Busanza. Mais cela a duré seulement quelques minutes. Elles ajoutent que l'armée congolaise continue à maintenir ses positions de Kibaya, proche de Bunagana et celle de Kabindi, sur le front ouest, dans le groupement de Djomba, alors que les rebelles du M23 sont à Bunagana et, entre autres, à Tamungenga. Autre nouvelle, au Kwilu, le centre d'accueil collectif des déplacés de Kwamout situé dans les entrepôts du marché central de Malebo à Bandunduville a été fermé depuis samedi dernier. C'est là après la distribution auprès de plus de 500 ménages des frais de transport et de réinsertion par la commission humanitaire mise en place par la délégation gouvernementale qui a séjourné dans cette ville la semaine dernière. À l'heure actuelle, ce site est vide et les déplacés qui refusent pour la plupart de retourner au territoire de Kwamout, au Maïndombe, à cause des atrocités vécues, quittent déjà la ville de Bandundu pour se rendre dans des destinations de leur choix. Irène Beaumont Reportage.
Après avoir reçu les biens constitués de vivres et non vivres, y compris d'une enveloppe de 200 000 francs congolais par ménage pour les frais de transport et de réinsertion dans du gouvernement congolais, plusieurs déplacés de Kouamout qui étaient logés au centre d'accueil collectif de Malebo à Bandundouville ont plié bagages et quittent déjà cette ville pour se rendre dans les milliers de leur choix, notamment leur village natal. Je revenais de Bibonga à Kouamout, mais je ne vais plus y retourner. J'ai vu le sang couler là-bas. Je ne saurais plus vivre encore dans ces milliers. Comme les autorités nous ont remis l'argent, je rentre à Gungu. Je n'ai pas encore trouvé d'occasion. Je dois prendre un véhicule jusqu'à Kikwit et de Kikwit, je vais aller jusqu'à Idjofa pour arriver à Boulouem. Notez que pour l'instant, tous les pavillons où étaient logés ces déplacés sont fermés par les autorités. La société civile du Kwilu condamne cette fermeture et pense qu'elle est prématurée et malvenue. Car selon elle, les assaillants de Kouamout sont toujours dans la nature et survivent des élevages et des produits agricoles de ces paysans à qui on a demandé de rentrer dans la gueule du loup. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa, l'heure est au bilan dans plusieurs quartiers de la ville après la pluie de lundi dernier. Un cas de décès a été déploré à Selembao, une fillette de 17 ans emportée par la force de l'eau de ruissellement au quartier Touloulumbabo. Beaucoup de Kinois ont été contraints au grand nettoyage ce mardi après les inondations, tandis que d'autres habitants des sites érosifs sont sans abri. Quelques exemples avec vous, Babel Pongo Massimango.
Outre ce décès dans la commune de Selembao, son bourgmestre adjoint Crispin Miyambi parle des dégâts matériels importants.
La maison communale, la toiture de notre hangar emportée au quartier Kondé, le mur de l'école Sedeco s'est écroulé. Au quartier Mbala, une érosion menace de sectionner la route Matadi à l'arrêt Zappé. Il y a agrandissement des érosions quasiment dans tous les quartiers.
Car aussi à Limba, notamment à Livoulou et Mbanzalimba, le bourgmestre Jean Saka.
Mbanzalimba, il y a une maison emportée par des têtes d'érosion. D'ailleurs, j'ai en face de moi une famille sinistrée. Le quartier Livoulou a été touché derrière Limosantou. Mais ici, en tout cas, il est impérieux que l'on réagisse vite parce que deux, trois pluies après, ça sera des dégâts très, très graves.
L'eau stagne encore dans plusieurs parcelles situées le long des rivières ainsi que la boue. C'est entre autres au quartier Neuf dans la commune de Njili, au quartier Kilimali à Kitambo, au quartier Evoloko, Tchangu, Kongo et Chwenge dans la commune de Massina, dans certaines autres parties de Lingwala, Ngiringiri, Bumbu et Kinshasa. Dans la majorité des communes, le bourgmestre lit cette situation au manque de canalisation des eaux, de curage ainsi qu'à l'érection des maisons sur des sites non édificandis.
Et puis au Congo central, la Société nationale d'électricité dit ne plus vouloir compter des morts par électrocution pendant la saison pluvieuse. Pour remédier à cette situation, la SNEL Congo central dit avoir reçu de sa direction générale plus de 30 000 mètres de câbles de 70 carrés BT pour remplacement des fils électriques non isolés à travers toute la province. C'est ce que révèle le directeur provincial ad intérim de la SNEL Congo central à l'issue d'une interview accordée à Radio Capi ce mardi. Isaac Mbenza affirme cependant que ces câbles électriques ne suffiront pas pour assainir tous les réseaux SNEL. C'est pourquoi il appelle la population à la prudence au moment des intempéries. Isaac Mbenza dans ses propos recueillis par Nana Plurichimambo.
On a eu 30 km de câbles de 70 carrés BT et 10 000 mètres de câbles 35 carrés que nous avons répartis dans les centres de distribution. Ce que nous avons reçu de notre hiérarchie doit devoir nous aider à commencer par éliminer là où il y a le fil unique qui se casse et qui cause pas mal de dégâts sur les réseaux et éventuellement améliorer la desserte de notre clientèle. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est éviter qu'il y ait plus des électrocutions. Nous déplorons beaucoup de morts dans la région à cause des casses des anciens fils, le fil nu. La SNEL ne voudrait plus avoir enregistré des morts à cause des cassures de fil. Il faut que les mamans, le papa et nous-mêmes, nous devons être toujours prudents. N'envoyez pas les enfants pendant qu'il pleut, quand il y a des intempéries. Tout le monde doit se protéger. S'il fait noir, prenez soin de mettre votre torche.
Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, le ministère du Plan sensibilise sur la mise en œuvre du document de la politique nationale de l'aide. Ce mardi, le chef de division chargé de la coordination nationale de l'assistance technique au sein de ce ministère a entretenu les animateurs des différentes institutions étatiques et para-étatiques sur les guides et feuilles de route financiers par rapport à la promotion de ces différents mécanismes. Ceux-ci permettront désormais au gouvernement congolais de prendre des décisions de gestion, suivi et utilisation des finances en matière de coopération. Charles Lohoya Panzamai, chef de division chargé de la coordination nationale de l'assistance technique au ministère du Plan, explique. Il est au micro de Jacques Moukonkole.
Depuis 1960 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais une politique nationale de l'air. Avec le gouvernement actuel, on a mis en place une politique nationale de l'air. Le principe qui définit les priorités, qui définit le mécanisme avec lequel eux, le partenaire, et nous qui sommes les bénéficiaires de l'air, comment est-ce que nous devons marcher, comment est-ce que nous devons évoluer. L'objectif poursuivi est d'abord que le gouvernement puisse bien d'abord qu'afficher le leadership en matière de la coopération au développement. Les partenaires de développement doivent également s'aligner aux priorités de développement, assurer aussi le suivi et évaluation de ressources reçues. La Tchopo va bénéficier de ces échanges parce qu'ici, à la Tchopo, la dame la gouverneure dispose aussi des priorités. D'abord, il faudra réhabiliter l'électricité pour le Tchopo. Et deuxièmement, la priorité, c'est développer le route de desserte agricole, développer, construire et réhabiliter des infrastructures sociales et récréatives pour absorber un peu la jeunesse des œuvreux. Et partant de cela, on a besoin de qu'il y ait des projets, des programmes qui doivent être financés avec des ressources locales et évidemment avec des ressources extérieures. Donc la province de Tchopo, c'est la toute première province qui bénéficie de la sensibilisation de ce document de la politique nationale de l'aide.
La Tchopo étant un point d'ancrage entre l'Est et l'Ouest de la RDC, son développement peut enclencher celui de l'ensemble du pays, souligne ce haut cadre du ministère du Plan. On revient ici à Kinshasa. Les préparatifs de l'examen et débat du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale étaient au cœur de la rencontre ce mardi à l'hôtel du fleuve des députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée pour la nation. Sous le lead du président Christophe Mboso et du premier ministre Samalou Kondé, les dignitaires de l'Union sacrée ont martelé sur la nécessité de réduction du train de vie des institutions de la République, en commençant par la présidence de la République, le Parlement et le gouvernement central. Le premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé aux députés nationaux qu'il y a une avancée significative dans le projet de budget exercice 2023, revu à plus de 14 milliards de dollars américains. Et puis dans la province du Maniema, 13 étudiantes de la filière sage-femme de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kalima viennent de bénéficier des frais académiques et des frais d'entérinement des diplômes pour les finalistes. Ces dons sont du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. La cérémonie de remise de ces fonds a eu lieu lundi 24 octobre dans la commune rurale de Kalima. Florence Kizalunga, reportage.
À part ces frais, UNFPA assiste l'ISTEM Kalima en renforcement des capacités du corps scientifique, la dotation et la réhabilitation de leurs bâtiments. Pour le bénéficiaire, cette assistance de UNFPA est une buffée d'oxygène à leur parcours académique. Safi Lubanda le représente.
Nous prions à UNFPA de continuer à appuyer la section sage-femme en octroyant aux apprenants sages-femmes des bourses d'études, en appuyant l'ouverture du deuxième cycle de la filière sages-femmes et en organisant la reconversion.
Le secrétaire général académique de l'ISTEM Kalima plaide pour la construction d'une structure sanitaire propre à eux pour la pratique professionnelle de ses étudiants. C'était Léonard Wakuzi Mupenda.
Il y a certains étudiants qui ont été chassés dans certaines structures. Pour nous, c'est un défi majeur. Nous sommes en train de nous dire si l'UNFPI pouvait nous aider à construire une structure sanitaire qui, à chaque fois que l'on pouvait avoir le stage clinique des étudiants, on affecterait ipso facto nos étudiants dans notre structure pour éviter que nos étudiants soient chassés dans les différentes structures privées ou étatiques.
L'enveloppe globale de ces frais est de 3 300 $ américains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En international, le premier pourparler direct entre le pouvoir central d'Addis Abeba et les autorités de la province du Tigré ont finalement commencé hier mardi 25 octobre à Pretoria en Afrique du Sud. Les délégations tentent de trouver une sortie de crise à un conflit qui dure depuis bientôt 2 ans et a fait des milliers de morts. Et puis le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak a décidé mardi de maintenir en poste le ministre des Finances Jeremy Hunt, nommé en catastrophe mi-octobre par Liz Truss pour calmer la tempête financière provoquée par son programme économique. Homme politique expérimenté et passé par les ministères de la Santé et des Affaires étrangères, Jérémy Hunt, 55 ans, avait, depuis sa nomination, annulé presque toutes les baisses d'impôts annoncées par le gouvernement de Liz Truss et averti de mesures difficiles à venir, faisant craindre un retour de l'austérité. Il doit présenter de nouvelles mesures budgétaires le 31 octobre prochain.
L'invité.
Que dire de cette énième attaque des ADF dans la localité de Maboya en chefferie de Bachou la nuit de jeudi dernier, alors que cette zone respirait déjà d'une accalmie depuis plusieurs mois maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein des services de sécurité et des renseignements? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons comme invité dans cette édition du journal le porte-parole des opérations Soukola 1 dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu. Le capitaine Anthony Mwalushai est notre invité donc. Il s'entretient avec Marc Maroufimbo. Suivez.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour.
Encore une incursion des hommes armés à Maboya avec des dégâts humains et matériels importants. L'armée, comment expliquez-vous cette situation alors que cette zone de la chefferie de Bachou subissait déjà une accalmie?
Avant de parler, laisse-moi d'abord présenter mes sincères condoléances aux victimes de Maboya, de cette attaque que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas laissé faire. Au moment où je vous parle, nous avons déjà arrêté 4 terroristes ADF-MTM. Nous avons même arrêté l'un de monsieur qui a dirigé, qui a orienté les terroristes et ses supplétifs dans ces villages pour opérer. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous allons les présenter officiellement devant la presse, donc devant notre population, pour qu'ils subissent vraiment la rigueur de la loi. Vous êtes sans ignorer que Maboya était jusque-là bien protégé par la population qui collabore très bien avec les militaires. Mais c'est grâce aux ennemis de la paix, aux gens qui sont à la recherche toujours de biens matériels, que l'ennemi nous a infiltrés et que l'ennemi a pu commettre des exactions causant même la mort de certains de nos compatriotes. Parmi les morts, nous avons retrouvé le corps calciné de la sœur docteur Sylvie et nous pensons que en tant que compatriotes, nous sommes obligés de partager ces douleurs avec les membres des familles victimes.
Est-ce qu'il faut dire comme la population que les secours étaient arrivés un peu en retard parce que l'alerte était peut-être faite bien avant?
En retard, je ne pense pas, mais ce qui était d'abord notre position qui était sur place. Vous êtes sans ignorer que parmi les victimes figurent même les deux épouses des militaires. Ça prouve que les militaires se sont donné corps et âme pour protéger et la population et leurs épouses. Nous avons dépêché le renfort des bénis vers Maboya. Arrivé sur place, l'ennemi avait déjà pris fuite. Aux alentours de 2 heures, nous avons commencé la poursuite contre l'ennemi et aujourd'hui nous avons les résultats. Et la poursuite qui continue d'ailleurs, nous pensons que nous aurons encore d'autres bilans à présenter à la population.
C'est depuis l'invasion alors de la prison Kakwangura de Butembo qu'on commence à enregistrer beaucoup d'attaques, mais aussi des mouvements qui quittent de l'ouest vers l'est, l'est vers l'ouest, et puis maintenant c'est la partie sud. L'armée, vous ne voyez pas qu'il faut maintenant changer peut-être de stratégie ou de mécanisme pour la sécurité de la population?
Exactement. Vous êtes sans ignorer que juste après l'évasion de la prison de Butembo, l'ennemi a commencé d'abord à radicaliser ses évadés et à les former à devenir djihadistes. Pendant tout ce temps, nous sommes en train de les traquer à Mwalika et vous êtes en ignoré que du côté ouest de la route nationale numéro 4, là je fais allusion à Biakato, Mambasa, et il y a des opérations partout parce que l'ennemi n'est plus fixe. L'ennemi est en train de fuir parce qu'il y a une pression militaire derrière lui. Malheureusement, dans sa fuite, il a besoin de nourriture, il a besoin de médicaments parce qu'il enregistre aussi des blessés dans ses rangs. C'est pourquoi vous avez vu ce qui s'est passé à Maboya où l'ennemi a pillé plus de 4 boutiques et s'attaquait aux infrastructures sanitaires pour avoir des produits pharmaceutiques. Donc cela renforce notre thèse sur la pression que nous exerçons sur l'ennemi et sur la fuite et les blessés que l'ennemi est en train d'enregistrer dans son rang. Donc nous sommes obligés à nous soutenir main dans la main avec la population, avec des informations sur l'ennemi et surtout les cultivateurs qui sont là-bas, qui voient peut-être passer l'ennemi. Il faut toujours alerter à temps et à l'armée de faire son travail.
La population pense plutôt qu'il faut renforcer maintenant les renseignements militaires pour bien travailler parce que l'ennemi est très mobile dans la région.
Oui, exactement. Quand on parle toujours des renseignements militaires, le renseignement militaire s'obtient grâce aux informations que la population donne. Ce sont les informations de la population que nous transformons en renseignements. Donc, c'est pourquoi nous appelons toujours à cette collaboration entre la population, entre les membres de la société civile, les acteurs, les chefs de village. Donc, chacun dans son domaine doit aider l'armée avec les informations. Et est nécessaire pour mener les opérations. Et c'est pourquoi nous demandons tout le temps que la population doit collaborer avec les services de sécurité pour, n'est-ce pas, se faire l'idée ou bien pour avoir les renseignements sur l'ennemi.
Capitaine Anthony Marchay, merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal. Mise en onde, Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers les pays, sous la coordination de Richard Junior Kamunga et la supervision de Alain Irung Mushinj. Merci pour votre particulière attention.